Dimanche on lit avec José Bournival.
Bon dimanche, c'est la semaine de l'Halloween et mon émission aujourd'hui aura des couleurs automnales. Plusieurs suggestions de livres pour ressentir de doux frissons littéraires et en entrevue, un romancier-poète qui habite maintenant Boucherville, Mathieu Blais, qui viendra nous parler du roman « Brûlé de beau », un bijou que j'ai dévoré vraiment là de la première à la dernière page. Bienvenue à Dimanche on lit. Je vous propose d'y aller avec des suggestions de lecture et de sortie à ne pas manquer. L'Halloween chez les 1000 enfants de Valérie Fontaine, illustré par Yves Dumont. C'est un duo gagnant qui en est déjà au 5e album pour cette série vraiment super chouette. C'est né suite à une conversation de l'autrice avec un de ses fils qui disait vouloir avoir 1000 enfants quand il serait grand. Imaginez passer l'Halloween maintenant avec 1000 enfants. Ben, pour la famille Chose, ça se passe à la maison. J'ai lu ce livre-là avec mon fiston et il a adoré. Les illustrations fourmillent de détails, on a plein de surprises, c'est rigolo et c'est publié chez Québec Amérique. Les éditions La Bagnole publient « Poèmes monstrueux » de Mireille Levert. C'est une belle façon d'initier les enfants à la poésie, avec des monstres pas trop méchants qui se mettent des doigts dans le nez ou qui sont poilus de la tête aux pieds. Des poèmes pour rire, pour rêver, pour frissonner également. Ça résume bien, je trouve, ce livre-là. Mireille Levert, elle est diplômée en arts plastiques de l'UQAM. Elle travaille en littérature jeunesse depuis plusieurs années. Elle est d'abord reconnue pour ses illustrations qui sont tendres, qui sont fantaisistes. Elle a illustré, entre autres, la série Jérémy et Madame Ming. Elle écrit et illustre ses propres textes. Elle a d'ailleurs remporté 2 fois le prix du gouverneur général du Canada pour ses illustrations. Alors, c'est à découvrir avec Poèmes monstrueux aux éditions La Bagnole. Et toujours sous le thème de l'Halloween et ses mystères, j'ai déniché pour vous un petit manuel de cartomancie de Marjorie Few aux éditions Les Nuées. Si vous avez un jeu de cartes traditionnel à la maison, c'est tout ce dont vous avez besoin pour prévoir l'avenir ou pour vous amuser à tirer les cartes aux amis, pourquoi pas. On explique la signification de chaque carte, on propose des étalements différents. J'ai aimé beaucoup la simplicité de ce guide-là. Pas besoin d'acheter un jeu de tarot, oui, c'est tout simple. Donc, le petit manuel de cartomancie de Marjorie Few aux éditions Les Nuées. Myriam Lacroix, pour sa part, publie « Ce qui nous attend » aux éditions Québec-Amérique. L'autrice vit actuellement à Vancouver, mais elle est originaire de Montréal. La couverture présente un doigt tranché dont la base saigne. Je me suis dit que ce serait parfait pour mon thème d'Halloween et j'étais pas au bout de mes surprises. Ce livre-là propose une histoire d'amour queer déjantée. C'est comme 8 récits dans lesquels 2 femmes imaginent leur avenir ensemble. Devenir parent, trouver un bébé dans une ruelle, ça évite les problèmes de conception auxquels les lesbiennes font habituellement face. Adopter ou coucher avec un de leurs amis, hein? C'est cru, c'est drôle, c'est glauque par moments. C'est un peu comme le jour de la marmotte, si on veut, qui permet d'imaginer la suite d'un couple et de revenir au point de départ quand ça dérape trop. Bref, c'est surprenant à découvrir. Myriam Lacroix, et ça s'intitule « Ce qui nous attend ». Maintenant, parlons de CQ, un voyage dans la solitude contemporaine de Kristen Radke. C'est une étoile montante du roman graphique chez nos voisins du Sud. Le roman graphique, là, dans le fond, c'est à mi-chemin entre la BD et le roman. C'est un objet vraiment esthétique qu'on veut laisser traîner sur notre table à café. Et celui-là, il est particulièrement touchant. Il parle d'un mal qui n'épargne personne, la solitude moderne. Hein, à cette ère où on est hyper connecté, ben, plusieurs en souffrent de cette solitude malgré tout. J'ai adoré la sensibilité du propos, les divers visages de la solitude que l'autrice expose aussi. Et la palette de couleurs dans les orangés et les sarcelles, le livre est magnifique à découvrir vraiment. Et je termine avec « La bouche » pour montrer une série de lames de Mégane Desrosiers. C'est un recueil de poésie qui est publié aux éditions Les Herbes Rouges. C'est le premier livre de cette critique de poésie et de théâtre. C'est une toute petite plaquette d'à peine 80 pages et qui se déguste vraiment un mot à la fois. De mon point de vue, ce livre-là s'adresse à une clientèle qui apprécie déjà la poésie, ses tournures de phrases surprenantes et les jeux imagés qu'elle propose. Mais parfois, vous savez, hein, ça fait du bien de sortir de sa zone de confort comme lecteur, d'oser, de se laisser déstabiliser. Et ce livre y parviendra assurément. Alors, ça s'intitule, je vous le rappelle, « La bouche pour montrer une série de lames ». C'est de Mégane Desrosiers et c'est publié aux éditions Les Herbes Rouges. Et tout ça, eh bien, ça met la table pour mon invité de la semaine, le poète et romancier Mathieu Blais, qui se joindra à moi dans les prochaines minutes. Mon prochain invité, il est poète et romancier. Il a publié d'ailleurs autant de recueils de poésie que de romans. Et aujourd'hui, c'est sa casquette de romancier qu'il porte pour nous rendre visite. C'est quelqu'un qui enseigne la littérature au cégep, qui est récipiendaire de plusieurs prix, dont le plus récent est le prix de la Nouvelle Radio-Canada 2024. C'est un Bouchervillois d'adoption en plus. Il est tout près de chez nous dans la région. Mathieu Blais, bonjour.
Bonjour, bonjour, ça va bien?
Absolument. Écoute, en préparant l'émission, je me suis rendue sur ton site Internet pour mieux te connaître. Dans la section biographie, c'est plutôt dégarni, hein, faut que je sois honnête. ça dit tout simplement, né à Montréal en 1979, Mathieu Blais est un auteur québécois. On va fouiller ça un peu plus largement, si tu permets.
Allons-y. Ben, je vais tout de suite y aller en disant ça. C'est le 13e titre que je publie dans ma vie et c'est la 13e rentrée littéraire dans laquelle je me retrouve. Et à chaque fois, je dois admettre que je suis pas meilleur d'année en année. C'est J'aime vrai? Pas vraiment ça. Je sais qu'il faut que j'aille défendre mon livre. Oui. Ça fait partie de la chose qui doit être faite. Mais moi, je suis un gars de l'ombre. Je suis un gars derrière l'écran, puis je dis ça, puis en même temps, je suis en classe devant des étudiants à semaine longue. Mais aller me vendre, c'est pas naturel pour moi, absolument pas. Puis vendre le livre, je suis pas à l'aise dedans, mais je le fais parce que je pense qu'il faut le faire, puis je pense qu'il faut toutes les tribunes qu'on offre pour parler de littérature, il faut les prendre.
T'as raison. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça met la table un peu pour moi qui veux te ramener dans le passé, très, très loin en arrière. Lorsque tu étais enfant, est-ce que cette timidité-là, cette envie d'être un peu dans l'ombre, tu l'avais déjà? Puis est-ce que les livres étaient tes meilleurs amis, finalement?
Non, moi, j'étais un rebelle. Là. J'étais vraiment un rebelle.
C'est vrai?
Je défonçais les portes.
Okay.
Je prenais toute la liberté que je pouvais prendre. Mais c'est par ma mère que que je suis rentré en littérature. Ma mère, elle m'a donné mon premier recueil de poésie. Il y a du Émile Éligan, il y avait un recueil sur, l'Anthologie québécoise de la poésie. Pourquoi c'est arrivé en mes mains? Je sais pas, mais ma mère m'a amené à ça. Puis juste, ça m'a accompagné dans ma rébellion adolescente.
C'est beau quand même parce qu'on n'imagine pas nécessairement rébellion et poésie ensemble. Et toi, tu trouves que c'est un mélange qui va bien?
Ben, en fait, la poésie, elle est adolescente. Elle est toujours dans les excès. Elle est toujours dans les excès d'image, les excès de forme. Alors, non, il y a un mariage qui est naturel. Quand je suis au cégep, par exemple, avec les étudiants, c'est pas vrai qu'ils sont intéressés par la poésie par défaut. Il faut leur vendre la chose. Mais c'est généralement par là, par cette intensité qui est véhiculée par la littérature, par la poésie, entre autres, que je trouve quand il y a un assemblage qui se fait, il y a un lien qui se fait. En tout cas, moi, c'est de même que je l'ai fait, c'est de même que je l'ai ressenti, puis c'est de même encore que ça m'habite beaucoup, beaucoup, la poésie qui est, en fait, la plus absolue des libertés en littérature. Il n'y a pas de contrainte, on n'est pas obligé de raconter, on n'est pas obligé d'être vraisemblable. Il y a juste la force du verbe qui est là pour dire ce qui doit être dit.
Hey, c'est intéressant parce que depuis le début, on parle de poésie, toi et moi, alors que j'ai justement dit que tu mettais ton chapeau de romancier en venant nous rendre visite. On peut pas sortir la poésie de toi, même quand tu écris un roman, c'est toujours très pressant.
C'est la poésie, non, c'est sûr, ça fait partie de... En fait, on sépare poésie puis roman d'une manière un peu artificielle. Moi, ma poésie, elle est beaucoup narrative.
Mm-hmm.
Donc, quand j'écris de la poésie, je cherche à mettre une trame narrative. Quand j'écris du roman, je sais pas si je cherche à mettre de la poésie, mais je sais qu'on me le...
Mais c'est là.
On me le dit souvent.
Tout à fait.
Il y a des images, il y a du rythme, il y a quelque chose. Mais bon, c'est pas pensé comme ça, c'est pas mécanique comme ça. Ceci dit, je pense que je suis un conteur dans l'âme. Et je trouve vraiment mon air d'aller avec le roman. Tu sais, on raconte dans le roman, on raconte, puis il faut embarquer le lecteur avec soi, ce qu'en poésie, on fait pas. Donc, le lien qu'il y a avec le lecteur puis l'écrivain, il est complètement différent. Le poète peut assumer qu'il y a trois lecteurs, le romancier, il gère très mal ça. Alors... En ce cas, c'est un peu étrange.
Ah, je trouve ça intéressant. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de cette démesure qui vient avec la poésie, de ces excès-là. Écoute, juste en dessous de cette section biographique sur ton site Internet où il y a deux lignes à peine, il y a une section, ma foi, impressionnante, la section honneur, où tu répertories une bonne vingtaine de prix, de nominations pour des prix aussi que tu as reçus en carrière. Écoute, c'est démesuré par rapport à ce que tu as écrit, puis j'enlève rien au fait que tu as quand même une dizaine d'ouvrages, mais je veux dire, avoir autant de prix pour si peu de livres, c'est vraiment impressionnant. Ça, est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que ça donne ses lettres de noblesse, par exemple, à la poésie, qui n'est pas un genre toujours facilement accessible pour tous?
Mais encore là, j'ai un malaise avec les prix, les honneurs. Je trouve ça extraordinaire.
<Tu m'étonnes.
rire> Non, mais je trouve ça extraordinaire de les recevoir. Je trouve ça extraordinaire. C'est des... À chaque fois dans une vie, parce que là, ça va faire, c'est mon 13e livre, le premier est paru en 2005, donc ça va faire pratiquement 20 ans que je mène mon petit chemin. À chaque fois qu'il y a un prix, chaque fois que je suis finaliste à quelque part, c'est une tape dans le dos qui dit tu n'écris pas dans le vide, tu n'écris pas dans le désert, il y a des gens qui te lisent, il y a une confrérie qui est là, qui t'appuie. Mais en même temps, il y a quelque chose d'excessivement arbitraire dans un prix.
Tout à fait.
On donne une étoile à un, mais en fait, il y en a 10 autres qui auraient pu l'avoir ou il aurait dû la mériter. Donc, je suis très fier. Mais en même temps, je ne suis pas fou non plus. Je sais qu'au Québec, on publie, on écrit. Il y a des éditeurs de talent, il y a des écrivains de talent. On a quelque chose de très dynamique dans notre milieu littéraire. Donc, je le prends, puis en même temps, non, je m'en fous pas la tête avec ça.
Écoute, cette humilité-là t'honore, mais Caroline, que c'est mérité. Moi, là, j'ai lu ton plus récent, Brûler debout, Mathieu, et j'ai tellement aimé, mais de la première phrase à la dernière. Si je te lance le défi, tiens, avant qu'on fasse une pause, de nous résumer, qu'est-ce que ça raconte, Brûler debout? Dans tes mots à toi, ça dirait quoi?
OK. Brûler debout, c'est l'histoire de cinq ou six personnages, qui vont apprendre à dire non. Ça, c'est le résumé le plus court que je peux faire.
Hey, c'est bon!
Yeah.
Non, mais c'est tellement ça! Bon, mettons un petit peu de viande là, autour de l'os.
Ouais, alors, ils vont dire non, mais là, le non va prendre une portée symbolique extraordinaire, parce que quand ils vont dire non, ils vont prendre les armes. Et les armes, rapidement, vont devenir un feu. Et ce feu-là va mettre à terre complètement l'entièreté du territoire. Et ce nom-là, parce qu'ils ont subi, je sais pas moi, une violence sexuelle, violence économique, violence politique. Alors, il faut que ça cesse. Donc, ils apprennent à se tenir debout, avant de brûler debout, là. Ils apprennent à se tenir debout, à dire non, et là, ils vont libérer quelque chose en eux, une espèce de violence épouvantable qui va exister sans la morale, sans les lois. Et là, à partir de là, on va suivre ce groupe de personnages qui part du nord. Là, on est dans le nord du Québec, dans le nord du territoire. Puis ils vont descendre vers le sud, vers les lieux de pouvoir. Et ils vont mettre à feu à sang ce territoire.
Et c'est fabuleux parce que ce western nordique, appelons-le comme ça, que tu nous proposes, il a tout de toi. Ton côté rebelle, ta poésie, ton humilité, tes personnages ont cette humilité par rapport aux événements qu'ils vont croiser sur leur route aussi, je trouve. Je te propose de faire une pause. On en parle plus en détail dans quelques instants. De retour à l'émission Dimanche en lit en compagnie de Mathieu Blais qui nous parle de son roman Brûler debout. Moi, je disais, Mathieu, que c'est comme un western nordique. Là, on suit les personnages, on s'y attache. C'est comme des gangsters, des hors-la-loi d'une certaine manière. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire ce livre-là? Est-ce que c'est un thème que tu voulais aborder? Est-ce que c'est un personnage que tu avais en tête? Comment ça a parti, cette belle aventure-là?
Ah ben, en fait, c'est le troisième livre, c'est le troisième roman qui s'inscrit dans une exploration de la violence.
Okay.
Alors, j'ai écrit Sainte Famille, qui abordait la violence conjugale. J'ai écrit Francœur, qui abordait la violence amoureuse. Puis là, c'est ça. Là, c'était, à la base, c'était la violence révolutionnaire qui m'intéressait. Comment des révolutionnaires font pour se convaincre que c'est correct de prendre des armes puis d'utiliser une violence. C'était ça la base. Mais l'écriture m'a amené ailleurs et j'ai abandonné cette thèse politique-là et j'ai juste libéré finalement les pulsions de mes personnages. Et ils disent non, ils refusent, mais ils n'ont pas de projet de société. Ils ne sont pas portés par un avenir qu'ils souhaitent voir arriver, là, je ne sais trop. Et ils sont juste dans la réaction. Et ça, ben là, de fil en aiguille, la figure du hors-la-loi. Parce que c'est ça, les personnages se placent en dehors des lois du monde, en dehors de la morale. Donc, c'est une figure qui est emblématique des Amériques. celle du hors-la-loi, celle du bandit de grand chemin. Alors, c'est après ça, le roman s'est écrit tout seul, là, avec cette base-là.
Faut qu'on parle de ces merveilleux personnages auxquels t'as donné vie, à commencer, bien sûr, par François d'Octobre, qui est le narrateur, on pourrait dire, de l'histoire. C'est à travers lui qu'on revit les événements qui se sont déroulés dans le passé. Qui il est pour toi, François d'Octobre? Puis évidemment, le nom de famille d'Octobre n'est pas le fruit du hasard, là, on l'aura compris.
On l'aura compris. Mais en fait, François d'Octobre, c'est clairement le témoin. C'est lui qui va faire le moins d'affaires dans le roman, mais c'est par lui que la parole va passer. Moi, ça m'a permis de me dédoubler. C'est pas mon alter ego, là, j'ai pas l'âme de hors la loi, mais il y a un dédoublement qui permet la parole, qui voit ce qui se passe avec les personnages. Donc, François d'Octobre raconte l'histoire parce qu'il va être le seul à survivre. Je dévoile pas grand-chose, c'est écrit à la première page, mais c'est le seul à survivre à cette cavale-là. Mm-hmm. Et donc, à partir de là, tout va se construire a posteriori et on va voir par ses yeux le doute, la sensibilité, tantôt l'amour, tantôt l'affection, mais aussi la colère, bien sûr, le sentiment d'impuissance par rapport aux structures avec lesquelles il se démène. Mais la franche camaraderie qui va naître entre ces personnages-là, je pense que c'est ça qui crée une espèce de tension dans le roman où on a des gestes de violence inouïs, mais en même temps, l'écriture rappelle l'humanité qui traverse cette petite famille dehors la loi. Alors, François d'Octobre, c'est lui qui porte ça.
Et la poésie que tu as insufflée aussi dans ce récit-là amène ça, cet amour des personnages, cet attachement qu'on a pour eux, cette tendresse qu'on développe aussi là, pour certains.
C'est paradoxal. Et la tension est là parce qu'à quelque part, on ne devrait pas avoir d'affection pour ces personnages-là. Et le roman joue sur ça.
Oui.
Et effectivement, je pense que tu le nommes, puis je n'ai pas vraiment réfléchi à la chose, mais ça passe par l'écriture. Ça passe par le langage, ça passe par le rythme, puis ces phrasés qui nous amènent à voir de l'humain ou du beau dans la nature qui s'élève ou dans cette camaraderie qui va s'établir. Mais ça nous amène au conte. Hein. Le roman, c'est un roman, mais le sous-titre qui est donné, qu'on va trouver à la page de garde, là, c'est « Conte de la table rase ». Donc, il y a quelque chose qui tient du conte. Du conte, de la fiction, du symbole, de quelque chose qui est faux, qui est imaginé. Et la table rase, ben là, ça le dit, hein, c'est là.
Tu parles de symbole, je suis obligée de parler d'un autre de tes personnages. Dans ta poignée de révolutionnaires, tu as décidé d'inclure une femme. Puis c'est vrai que quand on parle d'une violence aussi brute que celle qu'on retrouve dans ton récit, on associe ça plus volontiers aux hommes. Mais il y en a une qui ne donne pas sa place, c'est la Mélisse. Elle est qui pour toi, cette femme-là, ce personnage-là?
Ben, la Mélisse, c'est la chef de file de ce groupe-là, c'est la matriarche, mais ça dépasse l'image de la matriarche. Là.
Tellement.
On est tantôt avec une sorcière, tantôt avec une...
La putain.
Ouais, aussi, effectivement, mais celle qui va dire non, qui va finir par refuser d'avoir ce rôle-là ou d'être reléguée à ce rôle-là.
Ouais.
En fait, elle est toutes les images féminines ou toutes les symboles féminins, les archétypes féminins qu'elle va incarner, mais avec lesquelles elle va se libérer. Elle va se libérer de ça et elle va vouloir se libérer à tout le moins. Elle va tirer son groupe vers l'avant en disant non, elle aussi. Mais elle a une vision, elle incarne quelque chose d'un peu plus fantasmagorique, un peu plus sacré. La Mélisse, finalement, c'est une image sacrée. Pas de la femme sacrée, mais une espèce d'esprit tutélaire là, de la forêt qui s'incarnerait par la Mélisse.
Moi, je pense que comme auteur, il n'y a aucun choix qui est innocent. Pourquoi c'est elle qui mène? Pourquoi t'as mis la femme au centre de ton histoire comme ça?
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça allait de soi, il me semble. Puis encore là, ça crée une tension. Tu l'as dit d'emblée, la violence va être davantage associée aux hommes, dans une certaine lecture qu'on peut faire de tout ça. Et là, ici, on a quelqu'un qui se libère. Et cette liberté, elle se fait avec violence. Il faut qu'il y ait cette violence-là, sinon on va... En tout cas, jusqu'à un certain point, toujours répéter le même. Je pense que c'est là l'ancrage qui va se trouver avec le personnage féminin de la Mélisse.
Puis là, on parle de violence depuis tantôt, puis on a peut-être des auditeurs ou des auditrices qui se disent oh, « c'est pas pour moi, ça, c'est violent ». Là, je veux qu'on en parle, parce que je trouve que tu as dosé ça de manière très intelligente, et je veux savoir si ça a été un exercice difficile pour toi, parce qu'on le sent, le côté brut de cette violence-là qui nous explose en plein visage, mais en même temps... Les mots choisis, la façon de raconter, la poésie font que c'est tolérable, je trouve, comme lecteur. Est-ce que ça a été un exercice difficile pour toi?
C'est un exercice encore difficile. Je suis pas sûr, moi, encore de la réception, tu sais, tout ça. Ah, comment on reçoit ça? Est-ce que effectivement on le lit comme de la violence brute ou
gratuite,
est-ce qu'on... Ouais, c'est ça. Alors que, mon Dieu, c'est pas l'intention. Mais l'intention de l'auteur, là, c'est jamais ben, finalement, important. C'est comment le texte le porte. Et je pense que le texte réussit à tirer cette tension-là dans un espèce d'équilibre entre humanisme et violence du territoire. Je pense que la violence qui est représentée dans le roman, c'est une violence qui appartient au territoire. C'est-à-dire que le territoire qui est habité ici par les, qui est traversé par les personnages dans la première partie, c'est un territoire qui est trop grand, qui est trop fort, avec des arbres trop grands, avec des humains trop rudes. Et par là, la violence s'incarne, elle est là. Je pense que c'est une violence qu'on, en fait, c'est vrai que le mot violence revient beaucoup.
On n'y échappe pas. Mais tu sais quoi? Moi, je veux te rassurer parce que je suis pas le genre à aimer les livres sanglants ou justement où il y a beaucoup de violence. Je suis pas le lectorat premier pour ça. Avant de lire ton livre, on m'avait mise en garde que peut-être j'allais trouver ça délicat, cet aspect-là. Pas du tout. Au contraire, moi, le sentiment que j'ai eu, en fait, c'est que ça venait me jouer profondément dans les entrailles, dans des réalités, des émotions que je porte à l'intérieur de moi, mais que j'exprime pas nécessairement. Et là, tu mets des mots qui, en plus, sont beaux sur tout ça. Comme lectrice, ça a été ça, moi, le sentiment que ça m'a donné. Cette envie, en fait, de rager un peu à la place des personnages. D'avoir envie de monter aux barricades avec eux.
Mon Dieu, j'accueille ça avec beaucoup de bonheur, là, mais c'est là, moi, que je m'en allais. Puis c'est pour ça que je le dis, c'est un conte. Il y a quelque chose qui tient de la magie. Il y a quelque chose de magique dans ce livre-là. Et la violence se fait aspirer par ça. Et ça devient rapidement du symbole. Et je pense que le lecteur va le voir assez rapidement que cette violence-là, elle l'incarne, elle symbolise quelque chose. C'est peut-être pour ça que ça vient jouer dans les tripes, en tout cas.
Oui,
au moins une lectrice, ça aurait fait ça. Et ça vient jouer dans les tripes parce que ça s'enracine dans quelque chose qui dépasse ce qui nous est présenté dans les faits.
Je te rassure, je serai pas la seule. Ça s'intitule « Brûler debout ». Je le précise quand même, c'est aux éditions XYZ. Mathieu, avant qu'on se quitte, deux petites choses dont je voulais te parler. J'ai vu que tu allais publier un roman jeunesse aux éditions Boréal au printemps 2025, Les aventures du capitaine Corso. Quel public, quel genre, quel thème, va dire du
tout. Ça, c'est complètement nouveau.
C'est bien
joué. Oui, je plonge, puis Boréal m'a fait confiance. Fait qu'on plonge dans cette aventure-là. C'est un roman jeunesse, le premier que je vais écrire. Alors là, on est avec un pirate. On est avec une jeune fille qui raconte les histoires de son papa, qui, lui, a rencontré un pirate. Alors, on est dans un lectorat entre 9 et 12, quelque chose comme ça. Lectorat qui va chercher... Tu sais, on est initiation au premier roman, initiation littéraire. Le conteur, il est là. Moi, c'est l'histoire que je racontais à mes enfants quand ils étaient petits.
Ah, oh, c'est chouette!
Ouais. Mais là, ils sont rendus un peu trop vieux pour qu'on continue. Fait que là, moi, je m'ennuie, j'ai des choses à raconter. Fait que là, j'ai mis ça sur papier. Là, on est ailleurs complètement, mais mon Dieu que je me fais plaisir. Puis en tout cas, je me souhaite beaucoup de suite dans cette affaire-là.
C'est chouette. C'est drôle parce que je te sens t'animer très différemment pour parler de ça. Ça t'excite vraiment personnellement.
Ça touche à une fibre qui est... Moi, je revois mes enfants. Là. Je les vois petits, là, puis à raconter l'histoire du capitaine.
Ah, oh, j'adore ça. Là, c'est la saison c'est la saison des salons du livre, je peux le dire. Toi qui aimes être dans l'ombre, est-ce que tu vas participer à quelques événements?
Oui, je vais être au Salon du livre. Là, je pourrais pas te dire mémoire. Je sais que je participe au moins à une table ronde au Salon du livre là, sur la littérature politique. Là, je dis ça de mémoire.
À Montréal?
Oui, je serai là à Montréal, c'est sûr, avec XYZ, c'est sûr, sûr, sûr. Puis ça va être bien plaisant. Puis j'aime pas ça, mais je le fais avec plaisir. Puis les gens qui viennent me voir, je les accueille.
Moi, je dirais même que ça se pourrait qu'on te réentende. Je dis ça de même. Je dis rien, je dis ça de même. Mathieu Blais, en attendant, on va se régaler de Brûler debout aux éditions XYZ. C'est disponible dès à présent et vous ne le regretterez pas. Magnifique roman à se procurer. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Mathieu.
Merci à toi, José.
Au revoir.
Parlons maintenant actualité littéraire. Eh bien, il y a le Salon du livre de Rimouski qui va se dérouler du 7 au 10 novembre prochain. Vous êtes nombreux à nous écouter sur Internet. Alors, si vous êtes dans le coin là-bas, venez faire un tour. Moi, je vais y être, d'ailleurs. J'ai même un atelier sur la scène les jeudis et vendredis à 10 heures dans les deux cas. Pour tout connaître de la programmation, bien évidemment, rendez-vous sur le site Internet du Salon du livre de Rimouski, tout simplement. Autre actualité littéraire que je tenais absolument à vous mentionner, Cara Carmina et Pierrette Dubé vont publier un album magnifique qui s'intitule « La petite fille en papier émeri ». Imaginez l'histoire, c'est tellement sympathique. Dans la rue des petites maisons en papier, les origamis poindris habitent un bloc-notes quadrillé avec leur fille Lily. À la différence de ses parents, la fillette, elle a la peau rugueuse et elle ne peut pas manipuler ni de la laine ni des papiers fins. Mais on se demande, est-ce que le bois pourrait être son ami? Donc, c'est la tendre histoire, finalement, d'une petite fille qui est faite de papier sablé, hein, c'est ça, du papier émeri, et qui cherche sa place dans un univers avec des diaporamas époustouflants. Les illustrations, en fait, ce sont des photos. Cara Carmina a créé de petits personnages avec du carton, entre autres, et de la laine. C'est vraiment magnifique. Et samedi, le 2 novembre, à la librairie Le Repère de Granby, de 10h30 à midi, il y aura un événement qui réunira, oui, les deux créatrices, Cara Carmina et Pierrette Dubé. Donc, c'est à ne pas manquer, samedi prochain. Voilà qui termine. On fait une petite pause, ben non, tiens, conclusion tout de suite. La semaine prochaine, évidemment, c'est Jacques Létourneau qui y sera. Moi, je vous laisse avec une citation qui est de l'autrice Sandrine Filassier. Et ça va comme si Halloween, c'est le jour où les enfants se déguisent en petits monstres, alors que d'habitude, ce sont des petits monstres déguisés en enfants. Voilà, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine et de belles lectures, tout le monde. Bye-bye.